des kilos dans la cité gasconne, à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres, et beau défendre aussi joli drapeau. Il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire, à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise ceux qui flinguent les mormons comme pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse, je suis un érudit et je vous dis,
je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic, en fait en polonais, républicain et laïque. Et si certains regrettent de pas être noir de peau, je n'ai qu'une réponse, les gars, vous avez du faux.
L'égalité, mes frères, n'existe que dans les rêves, mais je n'abdique pas pour autant. Si la peur est un bras qui nous soulève, elle nous décime, j'en ai peur pour la nuit des temps.
Mais faut qu'il gagne les tournois. Elle aime Bolly mais a jamais rien aboli. Elle aime Noah mais faut qu'il gagne les tournois. Elle aime Bolly mais a jamais rien aboli.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas. À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur,
je me présente, voici. Je m'appelle la vie Mamadou Juan et faites place Guido Origino Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre. J'ai épuisé un combat, la bonne affaire, j'en ai bavé de la peur que j'ai lue dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien qui le croyaient précieux. Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites alors.
Le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie, elle bourdonne les abeilles. Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie, bourdonne les abeilles.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre époux et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler? Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir si il est naturel que les étrangers puissent bénéficier, au même titre que les Français, d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts.
Radio HDR, le mix des cultures, le mix de toutes les cultures. C'est sur le 99.1 FM.
C'est sur le 99.1 FM.
It's your world. La radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Qui nous emmène là, c'est notre volonté commune de se battre pour un monde simplement viable demain. C'est notre amour des rivières, c'est notre amour de pouvoir simplement se baigner dans nos rivières, dans nos marais, de pouvoir s'estomaquer d'un vol d'un héron et ces choses-là.
21 mai 2026, Julien Leguet, co-porte-parole de Bassine Non Merci devant le tribunal de Paris.
Notre lutte, non seulement elle est légitime, mais en plus elle est quasiment légaliste. On nous qualifie d'intervention dans les termes de désobéissance civile, alors que nous luttons contre des ouvrages qui sont classés illégaux. Alors qu'il est, la bassine de Sainte-Soline, elle est vide parce qu'elle est illégale.
Quand il est illégal de lutter contre une chose illégale, l'une des innombrables absurdités qui parsèment le marathon judiciaire entamé par Julien depuis des mois et des années, avec notamment des audiences en décembre 2025, mars, mai, juin 2026, dont cette étape parisienne du 21 mai dont on vous parle aujourd'hui. Après avoir la semaine précédente écopé de 6 mois de bracelet électronique et de 20 000 euros d'amende au tribunal de Poitiers, Julien retrouve donc le banc des accusés, ici parisien, pour un procès pour diffamation, accusé d'avoir qualifié d'assassine la préfète Emmanuelle Dubé, qui, à la demande de Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, piloter la féroce répression policière de Sainte-Soline qui a fait plus de 200 blessés. Sauvage et inutile carnage, puisque ce 25 mars 2023, 3000 gendarmes ont blessé et mutilé pour défendre un trou vide où il n'y avait rien à dégrader. C'est ce nouvel épisode de la persécution judiciaire dont Julien est victime qu'on vous invite à suivre aujourd'hui. 21 mai 2026 donc, une cinquantaine de personnes s'est réunie dans un jardin public à deux pas du tribunal de Paris. Et parmi tous les soutiens, des opposantes au méga canal Seine-Nord Europe, des soulèvements de la Seine, soulèvements de la Terre, des autres luttes, dont des militantes de la lutte du Triangle de Gonesse, des membres des syndicats Confédération Paysanne, Solidaire, CGT, FSU, Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole, ainsi que des députés écologistes et de la France Insoumise.
Merci beaucoup d'être rassemblés en soutien au camarade Julien, qui tout à l'heure passait en procès parce que il a osé dire que Darmanin était un ministre assassin quand il était ministre de l'Intérieur et que Emmanuelle Dubé était une préfète assassine. On rappelle que pendant Sainte-Soline, le travail d'investigation journalistique a montré que les secours ont été empêchés de venir sur place quand bien même il y avait des blessés très graves. On a un camarade qui est resté en coma pendant très longtemps. Cet empêchement d'accès aux soins qui a été montré par le documentaire d'Off Investigation, notamment donc Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, montre bien qu'il y a une volonté d'empêcher l'avenue des secours de créer des blessés graves en fait. Donc cette procédure Bayon qui vise le camarade, c'est vraiment pour étouffer toute critique des gens qui osent s'opposer à l'agro-industrie et à la privatisation de l'eau. Merci, nous on vient de la campagne des Deux-Sèvres, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et nos bassarades.
Quelques militants de Bassine Non Merci se regroupent autour du mégaphone pour lire la lettre magnifique adressée à Julien par un sympathisant.
Julien, je t'adresse cette lettre, t'imaginant chercher au fond de toi comment dire haut et généreusement les milliers de personnes que ta voix représente. Ce que je peux t'apporter depuis mon angle, habité de ma culture, celle qui fait ma dignité face aux coups de ceux qui ne cessent de nous l'enlever. Ce que le procès peut instruire, une histoire longue. Les Bassines ne sont pas le début de l'histoire. Elles en sont l'aboutissement. Dans les marais de basse Mésopotamie, des gens vivaient comme les huttiers du marais Poitevin, sur des îlots de roseaux, autonomes, pêcheurs, tresseurs, paysans de l'eau. Leurs maisons étaient faites de roseaux. Leurs bateaux, leurs nattes, leurs paniers, tout venait du marais. Personne ne les avait colonisés parce que l'État ne savait pas les atteindre, ne savait pas lire ce territoire-là. Jusqu'au jour où il en eut les moyens techniques. Alors il a drainé, cadastré, restructuré. Et ces gens ont perdu, en quelques décennies, ce que leurs ancêtres avaient construit en des siècles. Sans qu'on les consulte, sans qu'ils aient les mots pour nommer ce qui leur arrivait.
Le marais Poitevin, c'est la même histoire. Les huttiers, des gens venus chercher asile dans les zones que l'État ne pouvait pas quadriller, huguenots traqués après 1685, réfractaires de la Révolution, puis de l'Empire. Ils ont vécu pendant des siècles de ce que le pouvoir ne savait pas voir ni taxer. Fossés tous les 10 mètres, osiers coupés en mars, paniers pour les huileries, deux ou trois vaches, quelques arpents de bois, une économie du peu qui nourrissait son monde. On les appelait les colibères, libres du collier. Un homme que j'avais rencontré à l'île d'Elle avait 79 ans au moment où nous échangeons face à la vallée. Il se souvenait, le corps ému d'un traumatisme sourd, de quand les engins sont arrivés, dans les années 1950-1960. Au début, ils s'enfonçaient dans la vase. Les gens regardaient et se disaient « jamais ils ne pourront ». Puis ils ont eu du matériel plus lourd. Ça a duré 10 ans. Quand c'était fini, il ne restait plus que la plaine et une papeterie. « C'est le désert complet », dit-il. « Ce n'est pas lui qui a voulu ce changement. Ce n'est pas lui qu'on a consulté. Il ne savait même pas qui avait mis ça en branle. »
Ce remembrement que les gens appelaient « démembrement », ce n'était pas un accident. C'était un programme. Déjà sous le régime de Vichy, des agents de l'État, sincères, convaincus d'œuvrer pour le bien de ces familles, ont organisé des groupements de vulgarisation agricole. Sa généalogie remonte à 1879, à la création des chaires départementales d'agriculture, dont la mission explicite était de diffuser dans le monde agricole des connaissances techniques jugées non appliquées. On touchera les individus, préciser le texte fondateur, soit directement, soit par l'intermédiaire des instituteurs ruraux. Un ouvrage fut distribué au corps enseignant. l'école devant le problème paysan. L'instituteur et le professeur d'agriculture, les deux bras d'une même entreprise de mise en lisibilité du monde paysan. Des réunions chez les uns et les autres où l'on expliquait à de jeunes paysans ce que le progrès avait l'air d'exiger d'eux. Le Crédit Agricole organisait des voyages en Hollande pour montrer les systèmes hydrauliques. Et peu à peu, ces jeunes se sont détournés de la culture de leurs parents. Aujourd'hui, le maïs est partout et les nappes regorgent de pesticides et autres saletés.
Ce qu'ils ont perdu dans cette affaire, eux et leurs héritiers, actuellement agriculteurs et céréaliers, les savoir-faire du sol, les gestes, les petites chasses, les temporalités, les langues dans lesquelles tout ça se transmettait. Ces pertes ne figurent dans aucun bilan comptable. Ces industriels hors sol vivent au tempo des cours mondiaux. Et l'eau vivante, elle, est entrée en bourse en 2020 à Chicago. Cette destruction culturelle commence avant les agents de vulgarisation agricole. Dans les campagnes de l'Ouest, depuis l'époque romaine, les divinités ne manquent pas. Agazouza, la déesse de la haie en Europe, appartient au même horizon. L'Église a tenté de détruire ces figures qui tenaient dans les esprits et dont il demeure quelques traces dans un dicton météorologique, un chant de protestation, la poutre d'une maison dont l'étymologie est « jeune jument ». La destruction des savoirs populaires n'a pas précédé la destruction des haies par hasard. Elle en a été la condition.
Avant que le remembrement n'enterre ses arbres dans la vallée de l'île d'Elle, il avait fallu des siècles pour vider les haies de leur épaisseur signifiante. La maîtrise de la biodiversité et la maîtrise des croyances sont les deux faces d'une même pièce. La destruction d'une culture par la destruction de ce qu'il a fait, son milieu, sa langue, sa musique, ses gestes, ce qui s'exprime plutôt que ce qui se copie, sa mémoire, ses transmissions par imprégnation. On ne détruit pas un milieu sans détruire d'abord ce que les humains savaient en faire, savaient en exprimer, sans d'abord leur apprendre à en avoir honte, à en rougir. Tubé en est l'une des héritières dans ce système, ainsi que nous toutes et tous. Et il y a fort à parier qu'elle n'en sait rien. En servant l'esprit du roman national, elle prolonge par sa fonction un geste colonial dont l'école laïque ne dit pas grand-chose, surtout quand sa morale s'adresse aux classes populaires. Ce processus a un nom que Pierre Bitoun et Yves Dupont, sociologues, ont employé dans le sacrifice des paysans, l'ethnocide.
Comment la modernité a tué les paysans ? Pas en les massacrant, comme en Algérie, où des millions de paysans furent déplacés de force par l'armée française, mais en les poussant à rougir de leur langue, de leur accent, comparés dans leur usage aux sauvages, ceux qu'on avait fabriqués comme tels par les eaux humains, dont celui qui était installé à Poitiers fut présenté à 45 000 visiteurs. Ce nombre, c'était nos proches ancêtres, notre famille, nos voisins, ceux-là même parmi eux, qui nous ont élevés à ne pas ressembler au peuple de l'eau et de l'argile, ainsi qu'à tous ces humains considérés comme des sous-hommes. N'oublions pas la controverse Valladolid en 1550. Ce qui manque le plus cruellement à nos luttes, une conscience de ce que nos corps ont perdu, quand on ne sait plus d'où on vient, ce qu'on mange, ni comment le produire, on défend un territoire dont on a perdu la cosmogonie. Celles et ceux qui dirigent devraient lire les sciences humaines, rencontrer les anthropologues, ainsi peut-être sortirait-il de la tyrannie de la monnaie, celle des économistes qui dévalorisent les valeurs d'usage dont parle Bernard Friot.
Et aujourd'hui, les exploitations raccordées aux bassines sont majoritairement céréalières. Entre 70 et 80% de ce grain quitte la région par le port de La Rochelle, en direction de l'Algérie, du Maroc, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe du Nord. Ce que les bassines défendent, ce ne sont pas les veaux aux yeux tendres ou les biquettes souriantes qu'on montre aux caméras ou aux touristes de la Venise verte. C'est la logistique d'export d'une agriculture industrielle qui a besoin de garanties pour tenir les rendements que les contrats avec les coopératives exigent. Les bassines sont la suite logique d'un processus commencé 60 ans plus tôt dans une cuisine lors d'un groupement de vulgarisation. Autour d'une table avec un verre de cidre et une galette, où un agent de la Chambre d'agriculture de Vendée expliquait à deux jeunes paysans ce que le progrès avait l'air d'exiger d'eux. Nommé cet arrachement commun, celui des paysans du Poitou et celui des habitants venus d'ailleurs, est un acte politique, car on ne peut pas retourner contre une population sa propre souffrance quand celle-ci a appris à la nommer et à la communiquer. C'est précisément ce que ce projet cherche à empêcher.
ce que Dubé représente. Elle n'est pas une personne. Elle est un maillon dans cette chaîne. Elle représente un État qui subventionne avec de l'argent public la destruction d'un commun qu'est l'eau et les rapports cultuels et culturels à l'eau et à l'ensemble d'un milieu. Elle couvre la répression d'une manifestation dont la bleusaille a fait pleuvoir 5000 grenades et classe sans suite les enquêtes sur les violences policières contre des manifestants laissés pour morts sur le terrain. Ce classement sans suite est ton principal argument devant ce tribunal. Non pas un argument de défense, mais une mise en accusation du système qu'elle incarne. André Paché, figure importante des cultures populaires, particulièrement en Poitou-Charentes, l'avait formulé ainsi. Le paysan, ne se voyant pas reconnu par la société, entre en résistance. Mais une résistance inconsciente, un traumatisme mal nommé qui l'empêche de comprendre ce qui lui est fait, et donc de le nommer collectivement. La seule issue à ce blocage passe par la reconnaissance mutuelle. Que le paysan soit reconnu comme porteur d'un savoir, d'une culture, d'une dignité, et non comme un retardataire à moderniser. Dubé et ceux qui l'ont mandaté n'en veulent pas. Reconnaître cela reviendrait à admettre que l'État, depuis des siècles, détruit ce qu'il prétend protéger. Les terres, les cultures, les gens qui y vivent. Ils ont préféré les car à ce stade de l'ethnocide qui induit l'écocide, il faut se débarrasser de ceux qui portent encore une culture qui représente une menace pour les dominants. Des sauvages en France intérieure qui, à tout moment, malgré l'éducation, comme celle imposée en Algérie, pourraient se réensauvager. La maîtrise de la biodiversité et la maîtrise de la diversité sont les deux faces d'une même pièce. La France a un ministère de la culture et ses missions civilisatrices à l'extérieur comme à l'intérieur se débarrassent de la pluralité gênante pour l'extractivisme et le pouvoir des gros sur les petits.
Milan Kundera l'a dit, pour liquider un peuple, on commence par effacer sa mémoire. On détruit ses livres, son histoire, sa culture, et quelqu'un d'autre, lui, écrit d'autres livres, une autre histoire, une autre culture. Lentement, le peuple oublie qui il était. Puisses-tu faire entendre par le timbre de ta voix la dignité dont l'argile créolisée est habitée et dont l'humanité est construite depuis sa sortie d'Afrique, dont sont faits Lenny, nos bourrines, amis, frères, sœurs de toutes les zones humides, Raptron, Fessour, Basquette, Ajas, Cendrille. Le mot assassine n'est pas une insulte à défendre ou à atténuer, c'est une qualification politique à assumer et à démontrer. Ce que les tribunaux savent obtenir des militants et militantes, ce n'est pas de les faire taire, c'est de les faire se dédire. La clémence arrachée est le prix de la dignité abandonnée, et par là même, un peu du combat. Le procès ne se défend pas sur le terrain de la diffamation, il devient l'instruction judiciaire de ce que je viens de décrire. La stratégie de la rupture consiste donc d'abord à se taire face au tribunal. Revendiquer devant lui, c'est reconnaître qu'il a la légitimité de nous juger. S'adresser aux populations, c'est signifier qu'il ne l'a pas.
En faisant de l'audience un enjeu politique public, en déplaçant le regard du prétoire vers l'histoire, la peine prononcée devient politiquement insupportable à exécuter, mais la sanction n'en est pas moins forte et toujours disproportionnée face aux Sarkozy et à leur monde. N'ayons pas peur de la confrontation aux figures qui nous écrasent. Affrontons tous les pouvoirs représentés à l'intérieur d'un procès contre le peuple, les gilets jaunes, et cela systématiquement en disqualifiant leurs pseudo-experts par des scientifiques et des experts ordinaires dont la renommée est reconnue. Montrons comment leurs enquêtes sont mal ficelées, peu scrupuleuses. Contestons les décisions des juges quand ces derniers ne comprennent rien à ce qui fait la vie, au cycle de l'eau et du vivant en général. Faisons entrer l'anthropologie pour tous dans les matières de l'éducation nationale, dans les lycées agricoles, dans les lycées techniques, tel que ce fut fait dans le lycée Le Corbusier à Aubervilliers.
Apprenons-leur que l'étymologie latine du mot « religion » ne renvoie pas à l'idée de relier, mais à celle de scrupule. En ce sens, le parc naturel régional et François-Marie Pellerin, en signant ce protocole, en ont cruellement manqué envers le vivant et la démocratie. Si ton nom doit payer pour les humains et non-humains que tu représentes, alors le nom de l'ex-préfète doit payer pour le système qu'elle représente. Cher Julien, je serai là jeudi en pensée. Nobassaran ! Nobassaran !
Bassine derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Bassine derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
De chez Bassine, n'y en veulent pas, de chez Bassine, n'y en aura pas.
De chez Bassine, n'y en veulent pas, de chez Bassine, n'y en aura pas.
De chez Bassine, n'y en veulent pas, de chez Bassine, n'y en aura pas.
De chez Bassine, n'y en veulent pas, de chez Bassine, n'y en aura pas.
Il y a deux bassines derrière chez ma, mais n'en aura pas une.
Deux bassines derrière chez ma, mais n'en aura pas une.
À présent, on va accueillir des camarades qui sont là pour représenter les camarades qui passent en jugement dans l'affaire du 8 décembre. Merci pour elle.
Le 8 décembre 2020, 9 militants de divers courants politiques dits de gauche se sont fait interpeller dans toute la France par la DGSI pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Tous ne se connaissaient pas, leur seul point commun étant un camarade, Libre Flow, parti au Rojava aux côtés des Kurdes, les YPG. À l'issue d'une gaffe de 96 heures, deux personnes sont placées sous contrôle judiciaire, 5 autres sont placées en détention provisoire, entre 5 et 11 mois, et jusqu'à presque 16 mois à l'isolement total pour l'un d'eux. Il ne sort que grâce à une grève de la faim de 37 jours. En 2023, après un mois de procès, la justice a conclu qu'il n'y avait pas de groupe, pas de projet, pas de cible, mais subsistent des intentions supposées. L'État a déployé tout un arsenal de moyens inédits pour tenter de trouver quelque chose de suspect, toutes les méthodes les plus dégueulasses ayant été employées pour parvenir à créer de toutes pièces un faisceau d'indices concordants, caractérisant l'association de malfaiteurs terroristes. Les 7 inculpés sont condamnés pour terrorisme avec des peines de prison ferme, fichage européen, interdiction de communiquer entre eux et inscription au FIJET, fichier des terroristes, et cela pour 20 ans.
6 d'entre eux font appel de cette décision et sont jugés en ce moment à la cour d'appel de Paris sur l'île de la Cité. Ce procès, comme en première instance, n'est que violence, faux semblants, mépris de la part des magistrates, avec des débats entièrement à charge contre les inculpés. Il est important de se mobiliser pour afficher notre soutien et empêcher que la justice et l'État nous invisibilisent. Soutenir le 8 décembre, ce n'est pas seulement soutenir individuellement ses camarades-ci, c'est surtout lutter contre la répression de tous. Si la caractérisation de terrorisme était validée au terme de l'appel, cela offrirait une jurisprudence inédite pour réprimer les opposantes politiques. Fini les tentatives de dissolution de groupes politiques autonomes et des collectifs anti-autoritaires. L'État pourrait nous envoyer directement en prison sous l'accusation d'associations de malfaiteurs à caractère terroriste. Soyons nombreuses pour se soutenir face à un État et une justice qui cherchent à broyer nos idées, nos modes d'organisation, nos liens, nos modes de vie, nos rêves révolutionnaires. Cette affaire montre que l'antiterror est là pour créer des ennemis de l'intérieur et faire peur à tous celles-eux qui souhaitent s'engager pour un monde plus juste. Cette condamnation ouvre la porte à une criminalisation normalisée du monde militant. Plus besoin d'appartenir à un même groupe, de se connaître ou voire même de faire une action quelconque pour subir l'accusation de terrorisme. Il est de plus en plus récurrent de voir des condamnations pour apologie du terrorisme ou de voir les moyens de l'antiterrorisme appliqués au monde militant via la SDAT. Les médias parlent aussi d'éco-terroristes. Ainsi, l'antiterror devient la nouvelle norme répressive. Parce que demain, ce sera vous, nous, les terroristes. Aujourd'hui comme demain, nous ne nous laissons pas antiterroriser.
Bonjour. Julien, c'est une personne qui est un des symboles d'un mouvement social fort pour l'écologie. Des personnes qui se sont soulevées pour l'écologie, il y en a eu des centaines, il y en a eu des milliers, des centaines de milliers ces dernières années. Ce qu'on constate sur les 2-3 dernières années en particulier, c'est que toutes les semaines, il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui sont en procès. Ce qu'on voit, c'est qu'on a mis sur le mouvement écologiste une des polices les plus violentes de l'Europe. Parfois, il y a la police antiterroriste qui est déployée contre ces luttes-là, comme ça a été déployé sur d'autres luttes. Ce qu'on voit,